Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Alexis Rosenzweig au micro. Pour le bulletin, nous voici les titres. Prague se dit contre la taxe sur les transactions financières. Le ministre français de l'Agriculture était à Prague ce jeudi. Et puis du sport avec du foot et la République tchèque qui reçoit l'Espagne ce vendredi soir à Prague. Le gouvernement tchèque est opposé au projet de mise en œuvre d'une taxe sur les transactions financières au niveau européen. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le Premier ministre Petr Nečas. Il avait auparavant fait valoir que la taxe, qui devait permettre de lever 57 milliards d'euros par an, affecterait la clientèle des banques dans la mesure où les honoraires bancaires seront plus élevés. La Commission européenne a annoncé le mois dernier qu'elle souhaitait introduire la taxe à partir de 2014. Pour être adopté, ce projet devra obtenir le soutien unanime de l'ensemble des États de l'Union européenne. Mais le Royaume-Uni a fait savoir qu'il ne soutiendrait qu'une taxe au niveau mondial. La République tchèque, membre de l'Union mais pas de la zone euro, est également opposée à des obligations communes à la zone euro, a ajouté le Premier ministre Nečas. Le ministre français de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche, Bruno Le Maire, était en République tchèque ce jeudi dans le cadre des discussions sur l'avenir du programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis, le PEAD, et sur la politique agricole commune d'avant de l'après 2013. À Prague, Bruno Le Maire a poursuivi d'abord ses démarches diplomatiques en vue du prochain Conseil des ministres de l'Agriculture de l'Union, prévu le 20 octobre prochain, suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne annulant certaines dispositions juridiques du PEAD, un programme qui permet de nourrir 18 millions d'Européens. Bruno Le Maire a été reçu par le Premier ministre tchèque Petr Nečas au ministère de l'Agriculture. On passe maintenant à la politique nationale avec l'ancien Premier ministre Jiří Paroubek qui s'apprête à rejoindre un nouveau parti de gauche, les socialistes nationaux, la gauche du 21e siècle. C'est le nom de ce nouveau parti. Jiří Paroubek, ancien Premier ministre, avait critiqué la nouvelle direction du Parti social-démocrate CSSD depuis son retrait après les élections législatives de mai 2010. C'est Fergus McCormack qui a gagné le titre de meilleur barman international dans le cadre d'un concours organisé par Pilsner Urquell, la marque de bière, après une finale hautement concurrentielle d'une semaine en République tchèque. Originaire de Dublin, il a décroché sa victoire face à un groupe imposant de finalistes représentant 15 pays. Et c'est la deuxième place qui a été prise par un Tchèque, Jaroslav Učík, et la troisième place par Peter Škripko de Slovaquie. Et il fallait évidemment servir une perfection. Une pinte à la perfection. Du football pour terminer avec la sélection tchèque, je vous le disais en titre, qui affrontera vendredi soir à 20h45 l'équipe championne du monde et d'Europe en titre, l'Espagne, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2012 qui, vous le savez, se disputera en Pologne et en Ukraine. La Roja est en tête du groupe et la sélection tchèque espère terminer à la deuxième place. Une deuxième place qu'elle devra disputer à l'Écosse. Le match entre la République tchèque et l'Espagne se dispute dans le stade du Sparta sur l'esplanade de l'Etna dans la capitale tchèque. La météo pour finir avec le beau temps qui se termine et c'est déjà l'automne qui arrive avec un peu de retard quand même. Et demain vendredi, il devra faire beaucoup de degrés en moins avec des maximales autour de 12 degrés dans la capitale tchèque. Le bulletin vous était présenté par Alexis Rosenzweig. Dans une poignée de secondes, c'est Guillaume Narguet pour la suite.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Alexis pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord de l'économie. Depuis le début de l'année, les propriétaires de centrales photovoltaïques ou parcs solaires sont contraints de verser un impôt de 26% sur leurs revenus. Or, cette taxe décidée par l'État tchèque l'année dernière n'était pas prévue au moment de leurs investissements. Du coup, aujourd'hui, une centaine d'investisseurs, tchèques comme étrangers, réclament des dommages et intérêts à l'État qui pourraient alors être contraints de verser jusqu'à 40 milliards de couronnes. Culture ensuite avec une compagnie tchèque de marionnettes qui à Bordeaux revisite actuellement le conte du petit chaperon rouge. Et puis la rubrique du jour dans la seconde partie de ce programme sera consacrée au tourisme. Nous vous emmenons aujourd'hui dans le sud de la Bohême, plus précisément à Český Krumlov, l'autre perle avec Prague, sur les bords de la rivière Vltava. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. On commence donc avec de l'économie. Il y a près d'un an de cela, le Parlement tchèque a décidé que les centrales photovoltaïques ne bénéficieraient plus à compter de 2011 du soutien financier de l'État. À l'époque, l'adoption de cet amendement était officiellement motivée par la volonté de modérer l'augmentation du prix de l'électricité. Surtout, elle avait provoqué la colère d'une grande majorité d'investisseurs dans l'énergie solaire. Un an plus tard, le ministère des Finances a déjà reçu une centaine de demandes de dommages et intérêts de certains de ces investisseurs. Et si ceux-ci devaient obtenir gain de cause, l'État tchèque pourrait alors être condamné à leur verser entre 20 et 40 milliards de couronnes. Concrètement, les propriétaires des parcs solaires, dont certains étrangers, réclament une compensation financière à l'État suite à l'entrée en vigueur en début d'année d'un paquet de mesures comprenant notamment un taux d'imposition de 26%, et ce jusqu'à la fin 2014, sur l'électricité produite par les centrales solaires d'une capacité supérieure à 30 kW mises en service en 2009 et en 2010. Parmi les autres mesures désavantageuses adoptées figurent également les donations pour les droits d'émission de gaz à effet de serre, imposable désormais à un taux de 32%, ainsi que l'augmentation du montant des taxes pour l'occupation des terrains agricoles sur lesquels les parcs solaires sont installés. Les sommes ainsi récoltées sont reversées aux sociétés distributrices d'électricité afin qu'elles ne soient pas contraintes de procéder à une trop forte augmentation de leurs tarifs. Ces dernières années, les fermes ou parcs solaires étaient devenus un business très lucratif en raison essentiellement du tarif de rachat de l'électricité proposé par l'État, un peu plus de 430 euros le mégawatt par heure, soit un tarif de 50% plus élevé qu'en Allemagne voisine par exemple. Nombreux sont donc ceux sur le marché énergétique tchèque qui estiment que le paquet de mesures adopté par le Parlement visait d'abord à réparer les erreurs commises et en premier lieu à modifier une politique de rachat de l'électricité trop onéreuse. Les investisseurs se plaignent eux d'abord et surtout du taux d'imposition de 26%, une charge qui n'était pas prévue au moment de leurs investissements. Et face aux plaintes qui affluent, le gouvernement a déjà fait appel à une armée d'avocats. Mais comme l'explique Aleš Spatšil, président de l'association tchèque de l'industrie photovoltaïque, les propriétaires de parcs solaires ne souhaitent pas forcément entamer de longues procédures judiciaires. On l'écoute.
Zatím ještě investoři váhají.
Pour le moment, les investisseurs hésitent encore, ou plus précisément, ils préféraient trouver un arrangement avec l'État et veulent laisser du temps au gouvernement. C'est une question qui ne peut pas être réglée en 5 minutes, nous en sommes bien conscients. Mais il faut trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties dans la mesure du possible. Concrètement, il faudrait que l'État reconnaisse son erreur et propose une compensation aux investisseurs, qu'il leur rembourse les 26% d'imposition.
Si les demandes de compensation des investisseurs sont reconnues recevables, et plus encore les plaintes s'appuyant sur les contrats binationaux portant sur la protection des investissements passés avec différents pays, l'État tchèque pourrait être contraint de leur verser plusieurs milliards de couronnes, selon une information publiée il y a quelques mois par le quotidien économique Hospodářské noviny. Le montant des dommages-intérêts à verser pourrait se situer entre 20 et 40 milliards de couronnes. Et en juillet dernier, le premier jugement rendu par le tribunal de la ville de Prague avait donner raison aux investisseurs, l'impôt de 26% appliqué sur leurs revenus ayant alors été reconnu comme anticonstitutionnel. Du 6 au 20 octobre, la boîte à jouer à Bordeaux propose un spectacle de marionnettes de la compagnie Mouka, fondée par Claire Rossolin et Marion Bourdil, anciennes étudiantes à la DAMU à Prague. La compagnie y joue son spectacle Rouge Chaperon. Au micro d'Anna Kubishta, Claire Rossolin a rappelé la naissance de la compagnie.
Alors la compagnie en fait est née avec deux personnes, c'est Marion Bourdil et moi, Claire. On a fait nos études ensemble sur Bordeaux. On est parti en Erasmus à Prague à la DAMU et on est revenu. On avait très envie de monter une compagnie de théâtre de marionnettes et d'objets. Et après, on a rencontré d'autres personnes, Marion Gardy qui est venue se rajouter et Estelle qui fait notre diffusion.
Le nom de Mouka, la farine en tchèque, ça date finalement de vos études à la DAMU.
Ça date de là-bas. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est que notre professeur, alors je suis désolée, je vais écorcher les mots en tchèque, qui était Marek Deška et avait sa compagnie qui s'appelait Burti Alupki, qui faisait référence aussi au Bread and Puppet. Et du coup, tout avait un rapport avec le pain, donc ça nous semblait très intéressant de mettre la farine au centre, quoi. de cette recherche-là. Et puis, il y a aussi notre premier spectacle qui est Rouge Chaperon, qui est issu, en fait, d'un rendu, d'un premier rendu à la Damou de fin de travail et de fin d'études. Et il y a plein de farine, en fait, dessus. C'est la farine qui fait les lieux du spectacle, on va dire comme ça.
Alors justement, j'allais y venir. Vous avez justement à l'heure actuelle 11 dates pendant le mois d'octobre à la Boîte à Jouer à Bordeaux. C'est avec ce spectacle Rouge Chaperon qui est en fait une sorte d'adaptation. Alors je sais pas comment la décrire, culinaire et sanguine. Je l'ai pas vu le spectacle malheureusement, mais enfin d'après ce que j'ai pu en lire, une adaptation culinaire et sanguine du Petit Chaperon Rouge, donc un conte très connu. Est-ce que vous pourriez un petit peu le décrire pour les personnes qui n'auront peut-être pas la chance d'aller jusqu'à Bordeaux?
Déjà, on s'est inspiré d'une version populaire du conte de Nirvernaise, excusez-moi, qui montre le petit chaperon rouge. En fait, le loup lui donne à manger sa grand-mère, elle l'avale et en fait, elle part à la fin du conte. Donc ça change un peu des versions de Grimm ou de Perrault qu'on a l'habitude d'entendre. En fait, le spectacle se place sur deux plans, donc on a une table où on fait de la marionnette à table, en fait, où et répéter le conte du petit chaperon rouge. Et à l'extérieur de la marionnette, il y a les manipulateurs qui, eux, c'est-à-dire que ça agit comme un zoom ou un changement d'échelle. Et les manipulateurs vont plutôt parler des tabous du conte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va revenir sur eux et ça va mettre l'accent sur, la sexualité ou l'anthropophagie de ce conte-là.
Alors justement, vous parlez de ces tabous. C'est vrai que de manière générale, on dit souvent que les contes, finalement, contrairement aux adaptations, par exemple Disney, à l'origine, étaient souvent des contes très durs, hein, finalement. En tout cas, il y a des choses dures qui s'y déroulent, qui avaient sans doute une forme de morale pour les enfants, en tout cas pour ceux qui l'écoutaient. Justement, votre spectacle est pour tout public?
Non, il est à partir de 12 ans. Parce que on aborde justement le fait que voilà, le petit chaperon rouge mange sa grand-mère, donc c'est comme c'est un rite initiatique sur la sexualité, qu'il faut manger ses aïeux pour pouvoir évoluer et qu'on traînera toujours des cadavres derrière nous.
Alors vous utilisez également trois marionnettes tchèques du XVIIIe siècle dans ce spectacle. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire ce que vous a apporté justement ce monde de la marionnette tchèque?
Déjà une culture de la marionnette que nous ne possédions absolument pas. Et après, c'est rigolo parce que ces marionnettes nous ont été données par notre professeur pour ce spectacle-là. Et elles s'inscrivent aussi, enfin, je reviens toujours au spectacle parce que c'est très lié, mais elles donnent une figure au conte et comme une conscience collective, en fait, comme une culture collective qu'on a tous. Elles portent ça en elles, en fait, de l'ordre d'une tradition, quoi.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Cette suite est maintenant consacrée au tourisme. Český Krumlov est réputé pour être l'une des plus belles villes d'Europe centrale. Avec à peine plus de 14 000 habitants, cette localité de Bohême du Sud attire chaque année des voyageurs du monde entier. Il faut dire que le cadre de Český Krumlov a tout d'une carte postale. Bordé par un méandre de la Vltava, le centre historique de la ville se déploie autour d'une élégante place et est surplombé par un imposant château de style Renaissance. Les ruelles tortueuses de la bourgade ont-elles un charme un brin désuet et invitent le visiteur à la flânerie. Après des travaux de restauration, la ville a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992. Les édifices Renaissance et baroques ont retrouvé leur lustre d'antan et, abstraction faite du nombre de touristes, le temps semble avoir été suspendu dans cette petite ville de Bohême. Pauline Darvé vous emmène aujourd'hui à la découverte de ce lieu insolite qu'est Český Krumlov.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
De la République tchèque, les étrangers ne connaissent souvent que Prague. Assaillie par les touristes, la capitale tchèque est aujourd'hui devenue une destination à la mode. Si les beautés pragoises valent effectivement le détour, la Bohême et la Moravie recèlent également d'autres trésors. Encore méconnue, la Bohême du Sud présente notamment de nombreux attraits. La ville de Český Krumlov est l'un des principaux sites touristiques de la région. Riche d'un important patrimoine architectural, cette petite bourgade est parfois victime de son succès. Proche des frontières autrichiennes et allemandes et à moins de 3 heures de bus de Prague, Český Krumlov fait souvent l'objet d'une excursion d'une journée et au pas de charge. Ses beautés mériteraient pourtant un séjour plus long pour s'imprégner de l'atmosphère enchanteresse des lieux. Prise d'assaut par les touristes durant la saison estivale, la ville retrouve cependant son calme pendant le reste de l'année. En automne, les forêts alentour se parent de couleurs rougeoyantes et Český Krumlov est auréolé d'un charme bien particulier. Si les Tchèques, les Allemands et les Autrichiens plébiscitent cette destination, les Français sont encore peu nombreux à s'aventurer hors de la capitale pragoise. Un tort puisque cette petite bourgade de Bohême du Sud permet de découvrir d'autres facettes de la République tchèque. Jean-Sébastien, étudiant français, a eu l'occasion de visiter la ville. Il nous livre ses impressions.
C'est une très jolie ville dans laquelle on ressent beaucoup l'héritage austro-hongrois de la culture tchèque et qui finalement nous fait beaucoup rêver puisqu'on a un peu l'impression d'être dans un décor de cinéma, ce qui finalement peut-être nuit à la ville car c'est un haut lieu du tourisme de masse tchèque. Hein, on a un peu l'impression d'être dans un Prague en modèle réduit. Malgré cela, nous avons quand même pu apprécier la beauté, la finesse de l'art austro-hongrois. Mais finalement, non, c'est une très jolie ville, c'est vrai. Malgré, comme je l'ai dit, tout cet afflux de touristes américains et allemands venus de l'Autriche proche. Puis sinon, je pense que ce qu'il est intéressant de faire, c'est tout simplement de flâner, de se promener, de prendre une bière à quelques hospoda dans la ville pour admirer le reflet cristallin dans les méandres de la Voltava qui nous rappelle cette symphonie de Smetana. Et qui finalement offre une image peut-être plus authentique de la République tchèque que Prague et qui nous permet plus de comprendre l'âme de ce peuple, de ce romantisme un peu suranné que nous découvrons dans beaucoup de romans. On ne peut pas aller là sans penser à des artistes tels que Joseph Roth ou Kafka. Donc je vous laisse imaginer un peu la richesse culturelle de la ville. Je pense que c'est avant tout ça qui marque. Mais c'est vrai que je pense que c'est une étape nécessaire si l'on veut connaître un peu ce qui constitue les fondements de la culture et de l'âme tchèque.
Une étape nécessaire car l'histoire de la ville est riche et son patrimoine extrêmement bien préservé. Quelque peu laissé à l'abandon pendant la période communiste, les superbes édifices de Český Krumlov ont par la suite subi d'importants travaux de restauration et tout le centre historique est, depuis 1992, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il semble que la configuration et l'allure de la ville n'aient guère changé depuis le XVIIIe siècle. Une promenade dans les ruelles tortueuses du centre plonge d'emblée le visiteur au cœur d'une autre époque. Fondée au XIIe siècle, la ville et le château sont stratégiquement placés au bord de la Vltava, qui était à l'époque une voie de communication importante en Bohême. Appartenant d'abord à la maison Rosenberg, Český Krumlov est placé entre les mains de l'empereur Rodolphe II à partir de 1602. Peuplée par une grande majorité d'Allemands, la ville fera également partie de l'Empire d'Autriche puis de l'Empire austro-hongrois en 1867, le trouble politique que dans le reste du territoire tchécoslovaque. Après la Seconde Guerre mondiale et l'expulsion des Allemands, cette petite bourgade sera délaissée par les autorités politiques. Le patrimoine de la ville ne sera redécouvert qu'après la Révolution de velours. Les principaux édifices de la ville ont été construits entre le XIVe et le XVIIe siècle et relèvent des styles gothique, renaissance et baroque. Les bâtiments de la petite place de la vieille ville forment un ensemble au charme pittoresque et constituent le cœur historique de la cité. À partir de là, un dédale de rues sinueuses et pavées mène le visiteur vers le château. Perché sur un éperon rocheux et presque encerclé par la Vltava, la forteresse de Český Krumlov domine majestueusement la cité. Après avoir gravi une volée de marches, le visiteur peut enfin pénétrer au sein de l'enceinte du château. À l'origine de style gothique, le château a été reconstruit au XVIe siècle dans un style renaissance. Différents circuits de visite permettent de découvrir cette imposante forteresse. Les cours et les jardins sont quant à eux en accès libre. Un détour par le château vaut la peine, rien que pour le point de vue qu'il offre sur la ville et ses alentours. Malgré sa petite taille, à peine 14 000 âmes peuplent Český Krumlov, la bourgade présente, rien que par son cadre, un intérêt certain. L'été, il est également possible de descendre la Vltava en canoë-kayak, à partir de différentes villes situées en amont, une façon originale de découvrir les beautés de la région. Jean-Sébastien n'a, semble-t-il, pas eu le temps de s'ennuyer lors de son escale dans la ville.
Nous avons vu le château, qui est quand même très grand et qui est assez riche puisqu'il bénéficie de certaines pièces uniques dans toute la République tchèque, hein, notamment en ce qui concerne la fin du gothique, plutôt le gothique flamboyant proche de la Renaissance et disons le baroque rococo, hein, comme nous le connaissons en France par exemple à Versailles. Sinon, la ville en elle-même est vraiment intéressante. Je me souviens que nous sommes allés voir un centre d'art consacré à Egon Schiele, qui malgré son nom ne contient aucune œuvre unique et originale de Egon Schiele, mais qui permet de promouvoir de nombreux artistes de la Bohème du Sud et qui finalement offre un tremplin peut-être plus accessible que ceux de la capitale pragoise pour des jeunes artistes modernes de cette région. Puis sinon, je pense que ce qu'il est intéressant de faire, c'est tout simplement de flâner, de se promener, de prendre une bière à quelques hospoda dans la ville pour admirer le reflet cristallin dans les méandres de la Vltava qui nous rappelle cette symphonie de Smetana.
Český Krumlov, une ville dans laquelle il fait bon vivre et se promener au fil de l'eau. Au détour de chaque rue, c'est une page de l'histoire qui s'est écrite et le visiteur se prend à rêver d'une époque révolue où seigneurs et vassaux côtoyaient troubadours et autres petites gens du peuple. Une plongée dans le passé tchèque qui fait ressurgir, telle une Madeleine de Proust, les grandes œuvres littéraires et artistiques de Bohème dans la mémoire du promeneur. Une belle façon de redécouvrir ou de redécouvrir les trésors de Bohème.
Voilà, c'est déjà la fin pour aujourd'hui du bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt, de nouveau à l'écoute.